France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'initiative du jour est un livre qui propose des idées originales d'activités. Par exemple, explorer son quartier avec les narines. On se promène, on s'arrête de temps en temps, on ferme les yeux et on se concentre sur les odeurs qui nous parviennent. Ensuite, on note à chaque étape ce qu'on a senti et ressenti. Car il est important d'inviter les enfants à exercer leur nez. C'est excellent pour le cerveau, figurez-vous, et c'est aussi une façon de développer un autre rapport au monde, plus sensible sans doute, en particulier dès le plus jeune âge. Voilà qui pourra intéresser notamment les professeurs des écoles. Bouquin indispensable donc, son titre « Manuel d'éveil olfactif pour petits et grands ». Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Sarah Boisse.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes journaliste, spécialiste du parfum et des odeurs. Vous travaillez notamment avec la revue Nez et vous publiez avec Alix Douchet et Amandine Vépierre ce manuel d'éveil olfactif qui est un ouvrage collectif. Alors cette idée, elle est née de votre engagement dans l'association Nez en Herbe qui propose des animations dans les crèches, dans les écoles. Vous intervenez, vous animez des ateliers autour des odeurs. À partir de quel âge peut-on commencer à éveiller son odorat?
Alors j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'âge pour éveiller son odorat. On peut commencer en réalité dès la naissance. Il faut savoir aussi que notre odorat, il est fonctionnel dès la naissance et même un petit peu avant, puisque les enfants commencent à percevoir des odeurs déjà dans le ventre de leur mère. Donc on pourrait dire que l'odorat peut être éveillé à n'importe quel âge. Ce qui est sûr, c'est que ça présente un intérêt tout particulier à partir de 3 ans. Et avec l'association Nez en Herbe, moi j'ai eu l'occasion d'intervenir dans des écoles à partir de la maternelle. Mais l'association intervient aussi en crèche, où on sait notamment que de favoriser un environnement qui soit le plus riche possible sensoriellement, et notamment qui stimule l'ensemble des sens, et pas seulement la vue ou l'ouïe par exemple, permet de favoriser un développement cérébral harmonieux. Donc on a tout intérêt à enrichir notre expérience olfactive du monde dès le début.
L'odorat est un sens en marge, lit-on dans l'avant-propos de ce manuel. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Un constat très simple, l'odorat c'est un petit peu le parent pauvre de nos cinq sens. Dans la vie de tous les jours, il est très rare qu'on parle d'odorat. Rares sont ceux d'entre nous qui ont vraiment conscience de tout ce que leur apporte l'odorat dans le quotidien, même si le Covid a un petit peu fait évoluer les mentalités à ce niveau-là. Je crois que l'odorat c'est un sens dont on mesure l'importance le mieux malheureusement quand on le perd. En ce qui concerne l'éveil olfactif, il est totalement inexistant. Les apprentissages se concentrent de manière vraiment prépondérante sur la vue, l'ouïe. On a une petite semaine du goût quand même en France qui permet d'équilibrer un peu les choses. Mais l'odorat en tant que tel est très peu valorisé. On en parle peu alors qu'il constitue à lui tout seul une culture olfactive d'une richesse incroyable.
Vous le disiez tout à l'heure, on gagne beaucoup à éveiller son odorat. C'est notamment un outil pour cultiver la sensibilité chez les enfants.
Oui, bien sûr, la sensibilité au sens large, puisque c'est un sens.
Oui.
Et je crois que vraiment, peut-être la première chose qu'il faudrait dire, c'est que cultiver son odorat et sentir davantage, ça permet avant tout d'enrichir notre perception du monde. Notre monde est odorant, partout et tout le temps. Et en fait, c'est tout un champ d'informations auquel on peut décider ou pas d'avoir accès consciemment.
C'est une fenêtre supplémentaire à ouvrir finalement.
Complètement, pour être en contact à la fois avec le monde lui-même et à la fois avec soi-même. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. L'odorat, c'est un sens, on le sait, qui est relié d'une manière toute particulière à des centres dans notre cerveau qui sont liés à la mémoire et aux émotions. Et donc, par le biais de l'odorat, on a un accès aussi privilégié à nos propres souvenirs, à notre propre autobiographie, à notre propre sensibilité justement. Et c'est un levier super intéressant pour développer une meilleure connaissance de soi-même et du monde qui nous entoure.
Qu'est-ce que ça sent dans ce studio ?
Un peu la poussière.
Mais
ça, c'est assez classique.
Ouais. C'est la bonnette du micro, sans
exactement.
Doute. Alors, vous proposez beaucoup d'activités pratiques dans ce manuel d'éveil olfactif, notamment cette idée de se promener dans le quartier pour repérer des odeurs. On peut aussi se boucher le nez avant de manger un yaourt pour réaliser l'importance de l'odorat dans le goût. D'autres activités parmi vos préférées, Sarah Boisse ?
Alors, il y a une activité que j'aime beaucoup qui est Portrait d'une odeur, qui consiste à présenter une odeur qui soit parfum ou produit d'hygiène, produit de la maison, aux enfants et d'essayer d'imaginer la personne qui aurait derrière. Et c'est là qu'on se rend compte que l'odeur, dont on pense souvent que c'est quelque chose de très abstrait, très subjectif, en fait, en réalité, on a tous une manière particulière d'interpréter telle ou telle odeur en fonction de notre vécu, en fonction souvent d'expériences et d'éléments qui sont assez inconscients, mais qui sont vraiment à l'œuvre. Si je vous fais sentir un parfum, il est possible que vous me disiez « tiens, ça me rappelle... » je sais pas, mon oncle, mais je sais pas trop dire pourquoi, c'était pas son parfum, mais ça me fait penser à lui. On a tous une grille de lecture très très personnelle en ce qui concerne les odeurs, qui est liée à notre expérience individuelle, mais aussi à notre culture. Et ce genre d'exercice, au-delà de montrer que l'odorat peut être un point de départ hyper intéressant pour des activités notamment d'expression écrite ou de dessin, ça permet aussi de montrer qu'en fait, même quand on se préoccupe pas trop de son odorat, ces associations sont à l'œuvre et stimulent notre imagination d'une manière fabuleuse.
Votre manuel est un travail collectif. Qui avez-vous réuni pour la rédaction de ce livre ?
Alors les contributeurs de cet ouvrage sont nombreux parce qu'on a une vingtaine de signataires qui sont tous issus de l'association Nez en Herbe qui réunit à l'heure actuelle environ 70 membres. Et là en l'occurrence dans ce livre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment une grande variété de profils. On a à la fois des scientifiques, des chercheurs, des médecins, mais aussi des parfumeurs, des artistes ou des gens comme moi avec un profil plus journaliste. Et qui vont éclairer chacun à leur manière et selon leur expertise particulière les enjeux de l'éveil olfactif. Alors certains vont parler, vont expliquer comment fonctionne l'odorat, d'autres vont nous raconter justement quel intérêt on a à mettre en place des ateliers d'éveil olfactif. On a pensé aux instituteurs qui devraient convaincre leur directrice d'investir dans des saupoudrières, dans des poudrières en inox pour les activités. On a aussi des textes sur par exemple l'intérêt de sentir pour nouer une autre relation avec notre environnement. Donc c'est vraiment des contributions qui sont très variées.
La saupoudrière en inox, pourquoi ?
La saupoudrière en inox, c'est un petit peu un des éléments de matériel emblématique du bouquin, mais il y a aussi des choses beaucoup plus faciles à trouver, je vous rassure, parce qu'elle permet tout simplement de glisser un objet à l'intérieur qui est caché à la vue, mais qui peut néanmoins être respiré grâce au petit trou sur le couvercle.
Et ça permet notamment de jouer aux mémories des odeurs. Quel est le principe ?
Alors le mémoire olfactif, on a vraiment transposé sur un mode olfactif, donc ce jeu assez classique qui consiste à chercher à appairer des images identiques. Là, on doit appairer des odeurs qui sont identiques. Et c'est un très bon exemple parce que c'est typiquement une activité qui requiert pas qu'on verbalise ou qu'on sache reconnaître l'odeur. Ouais. Et souvent, quand on parle d'éveil olfactif, et moi, quand je raconte un petit peu les ateliers que j'anime via l'association Nez en Herbe, les gens s'imaginent souvent qu'on fait des choses assez compliquées qui sont plutôt un petit peu comme de l'apprentissage de parfumeur, apprendre à reconnaître, à nommer des ingrédients, c'est pas du tout le cas. En fait, en réalité, on peut déjà faire beaucoup de choses simplement en jouant avec les odeurs.
Donc en repérant que celle-ci et celle-là sont les mêmes odeurs sans avoir aucun mot à y mettre finalement.
Exactement. Mmh.
Ce qui est intéressant avec ce manuel, c'est qu'il alterne des activités pratiques à proposer aux enfants en classe avec des chapitres théoriques, notamment sur le fonctionnement de l'odorat. Est-ce qu'il y a une information qui est méconnue sur l'odeur, d'après vous, Sarah Boisse, sur le fonctionnement peut-être de notre cerveau autour du nez ? Quelque chose que tout le monde devrait savoir, selon vous ?
Alors, quelque chose que tout le monde devrait absolument savoir, c'est qu'on est tous relativement égaux face à l'odorat. C'est-à-dire qu'il y a cette croyance très répandue qui voudrait que les personnes qui exercent un métier en lien avec le nez, comme les parfumeurs ou les œnologues, ont un super nez, un organe incroyable. En réalité, on est tous à peu près égaux. Je dis à peu près parce qu'il y a quand même des variations d'un système olfactif à l'autre. Il y a aussi des personnes qui souffrent de maladies congénitales et on peut évidemment pas les mettre tous dans le même panier. Mais néanmoins, on a tous un organe fonctionnel. Avec une marge de progression très 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 importante, et c'est ça en fait qui va distinguer par exemple un parfumeur ou un œnologue du commun des mortels. C'est un entraînement en fait, et on peut muscler, alors non pas son nez lui-même, hein, parce que je crois que si on pouvait muscler son nez, personne ne le ferait, mais c'est le cerveau et c'est les aires cérébrales dédiées au traitement de l'information odorante qui elles peuvent être vraiment musclées d'une manière mais prodigieuse, et on peut vraiment tous progresser à n'importe quel âge. Et ça aussi c'est quelque chose que je trouve important de souligner. On propose un manuel d'éveil olfactif pour petits et grands. Et là-dedans, il y a aussi « et grand ». Et en fait, à tous les âges de la vie, et même tard, et j'ai envie de dire aussi surtout tard, on gagne beaucoup à cultiver à la fois son attention pour la chose odorante, pour la dimension odorante du monde, et toutes les facultés cognitives qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir nommer, par exemple, les odeurs, ou les comparer, ou s'amuser avec, ou chercher à savoir ce qu'elles nous rappellent.
Vous êtes vous-même, je le disais, journaliste spécialiste des odeurs, Sarah Boisse. Vous avez publié un livre intitulé « Par le bout du nez, une histoire intime des odeurs », qui est un récit très personnel. Et vous faites le récit de votre histoire odorante. Est-ce que vous avez vu progresser ce muscle? Est-ce que vous avez constaté qu'en l'exerçant, l'odorat, on le voit progresser?
Alors moi, mon expérience personnelle, pour avoir été toujours très 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 intéressée par les odeurs, même si c'est évidemment mon métier seulement depuis une quinzaine d'années, j'aurais du mal à observer la progression chez moi. En revanche, ce qui est sûr, c'est que dans les phases, par exemple, où je sens beaucoup, il y a une espèce d'acuité en fait qui se développe. Et par ailleurs, je crois aussi, ça je l'observe plutôt autour de moi, pas forcément sur moi-même, mais qu'une fois qu'on commence à mettre un peu le doigt dans la prise, c'est difficile de s'arrêter et qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une curiosité olfactive qui se nourrit un peu d'elle-même. Et quand on commence à se rendre compte que le monde sent, qu'on est équipé pour le sentir, que ça nous apprend des choses à la fois sur le monde qui nous entoure, à la fois sur nous, il y a quelque chose, je trouve, de super galvanisant. Et j'ai l'impression que quand on commence à prendre conscience de ça, le chemin se fait tout seul. Donc il y a une culture qu'il ne faut pas forcément chercher à acquérir. C'est pas quelque chose de l'ordre d'une connaissance qu'il faudrait avoir et qui nous distinguerait des autres. C'est plus une espèce de manière d'être au monde, en fait. Et je crois vraiment que quand on commence, on n'a aucune raison de s'arrêter.
Pour achever de convaincre les profs qui nous écoutent d'utiliser votre manuel auprès de leurs élèves, même si on a bien compris que c'était aussi pour les adultes,
hein. Ouais.
Mais on peut peut-être préciser que la recherche a prouvé que la stimulation olfactive renforce notre mémoire, nos capacités cognitives. Et si je me sers souvent de mon odorat, c'est la plasticité de mon cerveau qui progresse, Sarah Boisse.
Ouais, exactement. Exactement. On sait aujourd'hui que la stimulation, l'entraînement olfactif ont des effets bénéfiques sur le cerveau et pas seulement en ce qui concerne notre odorat lui-même. Donc ça, c'est vraiment un argument qui me semble intéressant. Et par ailleurs, puisqu'on s'adresse aux enseignants, même si, encore une fois, c'est un livre qui s'adresse à tous, moi, j'ai pu l'observer. Inviter l'odorat dans une classe, proposer aux enfants des activités autour de l'odorat, c'est aussi un levier incroyable pour inviter les enfants à s'exprimer d'une autre manière et développer une attention à l'autre aussi, qui est d'une qualité tout à fait unique. Quand on demande à 30 enfants dans une classe de chacun rapporter de chez eux, par exemple, un objet qui parle d'eux, dont ils aiment l'odeur, ça permet de raconter des choses qu'on n'a jamais l'occasion de raconter dans la cour de récré autrement. Et ça, je crois que c'est vraiment un atout à prendre en considération.
Qu'est-ce qu'on ramène, par exemple ?
On peut ramener le parfum de sa maman, on peut ramener des épices qui sont très présentes dans la cuisine de chez nous.
Son doudou ?
On peut ramener un vieux doudou puant qui nous permet d'aborder le fait que notre perception des odeurs est quand même super subjective et que c'est jamais tant l'odeur elle-même que ce à quoi elle nous renvoie, nous. Quand on découvre en fait cette subjectivité totale à laquelle nous renvoient les odeurs, en fait, je crois aussi que ça nous rend tolérants parce qu'on se rend compte que notre vérité n'est pas celle de l'autre et que, bon, bah, il y a plus qu'à faire avec. Donc les enfants peuvent ramener des choses très variées et en tout cas, voilà, ça ouvre à des discussions qui, je crois, ne sont pas toujours accessibles par d'autres moyens.
Est-ce que vous avez un souvenir marquant à me raconter parmi vos interventions dans les classes avec l'association Nez en Herbe ?
Alors j'ai un souvenir assez marquant, oui, il y a une activité qu'on propose assez régulièrement avec les bénévoles de l'association, qui est une activité autour des mauvaises odeurs, qui a pour but de montrer aux enfants que notre nez nous renseigne aussi de manière assez précieuse. Par exemple, c'est grâce à notre nez qu'on peut distinguer du vinaigre blanc de l'eau. Oui. Il y en a un qu'on peut boire, un qu'on peut pas boire. C'est notre nez aussi qui nous permet de reconnaître que une crevette est avariée, même si elle a l'air en pleine forme. Donc voilà, on apporte des
et
odeurs
l'odeur de gaz,
un peu puantes.
N'en parlons pas.
L'odeur de gaz, l'odeur de brûlé. Donc c'est une activité qui vise à leur faire prendre conscience de ça. Donc on leur présente quatre odeurs qui sont un peu puantes. Il y a du pain brûlé, il y a une fameuse crevette avariée, et puis il y a une belle crotte de chat.
C'est sympa, donc vous avez des petites boîtes
on a
pour
des
faire
petites
sentir
boîtes,
les odeurs.
Exactement, on se trimballe avec dans le métro, on rit sous cap. Et les enfants sentent ça et je trouve que c'est toujours un grand moment parce que les enfants sont hyper attentifs. Alors déjà, quand on fait des activités olfactives avec des enfants, parce qu'on vient stimuler un sens justement qui est traditionnellement complètement laissé de côté, il y a déjà a priori un intérêt, un supplément d'intérêt de la part des enfants. Mais alors si en plus vous apportez des mauvaises odeurs, là, c'est carrément, vous êtes la rockstar, quoi. Et c'est hyper cool d'animer des ateliers sur les mauvaises odeurs. Les enfants comprennent complètement le message. Ils rient, mais en même temps, ils sont super attentifs. Et quand on fait un petit débrief à la fin de l'intervention, c'est toujours celle-ci qui revient, ouais.
Manuel d'éveil olfactif pour petits et grands. C'est donc édité par la revue Nez. Merci beaucoup, Sarah Boisse.
Merci beaucoup, Dorothée.